pourquoi l'être est-il l'attribut par excellence du point de vue logique ? Si l'intelligence, dans sa nature propre, est ordonnée à ce qui est, ce qui existe, donc l'être. Évidemment, l'être a une signification tout à fait propre d'exprimer ce qui est dans ce qu'il a de plus fondamental. Alors, c'est très curieux de regarder dans toutes les langues le point de vue de l'être, parce que le langage exprime la pensée, mais toujours avec un mode qui n'est plus uniquement naturel. La pensée d'un Grec 400 ans avant Jésus-Christ et ma pensée actuellement peut être la même, mais le langage est différent. Alors, il faut faire toujours la distinction entre la signification du langage et la modalité particulière que ce langage peut être dans telle et telle langue. Autrement dit, je ne fais pas la philosophie du langage. Je fais la philosophie de ce que je pense. Alors évidemment, tous ceux qui ne pensent que dans le langage n'atteignent jamais la métaphysique. Ça, c'est évident. Ils sont au niveau du langage, donc de la culture. Et le langage varie. Il n'est pas le même en Angleterre qu'en France, en Amérique qu'en France, au Mexique qu'à l'Espagne, et ainsi de suite. Et le chinois en plus. C'est vrai, quand je parle de la substance, pour la Chine, qu'est-ce que c'est ? Alors je dois parler, voir un chinois, je ne verrai pas quelqu'un qui a appris le chinois. Parce que celui qui a appris le chinois a une langue maternelle qui n'est pas le chinois. Et donc il n'arrivera lentement à faire que le chinois ne soit pas une langue apprise. Ça devienne une langue qui colle à sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue qu'on a apprise auprès de sa mère. Pas par la télévision. C'est très spécial, hein, la langue maternelle. Alors, évidemment, la mère a pu mourir, mais il y a eu quelqu'un qui l'a remplacée. Et ce quelqu'un qui l'a remplacée a été source de ça. J'ai appris ma langue auprès de ma mère. Et chacun d'entre vous, oui. C'est un phénomène très particulier. Et au fond, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Mgr Gilson, il m'a dit, le phénomène tout à fait nouveau, c'est que maintenant, on apprend la langue par la télévision. C'est vrai. Et cependant, on l'apprend toujours par sa mère. Mais le langage maternel est très vite abîmé par un autre langage. Alors ça, c'est pour tout. C'est pas seulement pour le langage. Pour l'éducation maternelle est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Alors évidemment, quand on n'a pas connu sa mère, la personne qui nous a soignés, qui était auprès de nous toujours, a été comme notre mère. C'était pas factice. Elle a dû entrer profondément dans ce que représente cet amour maternel. La langue, elle n'est pas entièrement naturelle. Mais il y a quelque chose dans la langue qui est naturel. Et quelque chose dans la langue qui est artificiel. Alors, ce qui est naturel dans la langue, c'est pouvoir s'exprimer dans les choses tout à fait premières. La métaphysique dépend de la langue maternelle. Ceci est alors, dans toutes les langues, vous trouvez cette chose première d'exprimer selon des modalités différentes, c'est sûr, artificielles, mais il y a quelque chose de naturel. Alors, la pensée se transmet par la parole. Ce qui est important, c'est de voir que la pensée est naturelle. Et elle se transmet dans une langue. Et dans cette langue, on arrive à s'entendre sur les significations de l'être. Alors, vous comprenez pourquoi l'être est-il l'attribut par excellence, au point de vue, pas seulement au point de vue logique. Au point de vue logique, oui, l'être est l'attribut premier. Pourquoi ? Parce que, au point de vue métaphysique, le jugement « ceci est » et non pas « ceci est vivant », mais « ceci est tout à fait fondamental. C'est à cause de la signification première que dans la logique est et la copule, c'est-à-dire le lien, tout à fait premier. Pierre est intelligent. Ça, c'est radical. Pierre est vivant. Pierre existe. Donc, vous voyez, la logique, elle est naturelle, mais elle est déjà un naturel très élaboré. C'est pas le naturel, vous ne naissez pas avec la logique. L'enfant, dans ses paroles, il dira très vite « ceci est » ou quelque chose d'analogue à ça. Et ça, c'est au-dessus de la logique. La saisie de l'être est antérieure à la logique, heureusement. Et la saisie de l'être au point de vue logique est quelque chose de postérieur, puisque la logique est un habitus acquis. Vous ne naissez pas avec la logique. Vous avez appris la logique auprès de votre mère, auprès de votre père, auprès de vos petits camarades, auprès de votre professeur. Auprès... Et on a élaboré la logique. Et on a élaboré deux logiques. La logique de l'être et la logique mathématique. La logique de l'être repose sur ceci est. La logique mathématique repose sur la relation. Je me souviens, il y avait à Fribourg le bon père Borensky, qui était très fort en logique, et il voulait faire de la logique quelque chose de naturel. Or, il a écrit un livre sur la logistique. Et il montrait, et il voulait montrer, que la logistique s'enracinait dans la logique d'Aristote. Et je devais être le censeur. Alors, j'ai dit, on ne peut pas affirmer que la logique mathématique s'enracine dans la logique d'Aristote. La logique, la logistique, elle est à base des mathématiques, et la logique philosophique, elle est la logique de l'affirmation « ceci est ». Donc, la logistique repose sur la relation en mathématiques, et la logique classique d'Aristote repose sur la saisie de l'être. Ceci est. Alors, c'est deux choses différentes. Il y a deux logiques différentes, la logique de l'attribution d'Aristote et la logique mathématique. Dans la logique mathématique, celle de Husserl, c'est logique en mettant entre parenthèses l'être. Donc, vous voyez, c'est très délicat. La logique n'est pas naturelle. Elle est apprise. Mais elle se fonde sur quelque chose de naturel. La connaissance est une connaissance très simple, implique une certaine logique. Mais la logique de l'être, c'est une logique qui présuppose la métaphysique. Donc la métaphysique est au-dessus de la logique et c'est pour ça qu'elle peut la fonder. Si la métaphysique était dépendante de la logique, elle ne serait pas le fondement de la logique. Nécessairement. Donc, avant la logique, il y a l'intelligence qui connaît. Et dans l'intelligence qui connaît, il y a appréhension et jugement. Et ceci, c'est l'analyse de la connaissance humaine. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre appréhension et jugement. Tout est l'ordre de la sagesse. C'est très important, ça. Parce que la parole de Dieu exprime la pensée de Dieu. Alors, quand vous regardez la parole de Dieu avec une logique mathématique, vous diminuez la parole de Dieu et vous la ramenez à un mode humain mathématique qui ne saisit pas ce que c'est que l'être, qui ne saisit que la relation. Alors je comprends très bien que la métaphysique met entre parenthèses l'être, puisqu'il est relation. Puisque cette philosophie est une philosophie qui repose premièrement sur les mathématiques et non pas sur la nature. Les mathématiques, c'est déjà une élaboration humaine. Il faut être très attentif de voir l'origine des choses. Et dans le langage humain, il y a le langage humain naturel, le langage humain philosophique, le langage humain scientifique. Et chaque fois, vous devez faire attention. La logique est un art. C'est l'art de la pensée. Ars, artium. C'est ce que dit saint Thomas. Il appelle la logique ars, artium. L'art des arts. L'art de la connaissance. Pour voir les règles profondes de la connaissance. De l'appréhension, du jugement, du raisonnement. Et la logique joue surtout à propos des raisonnements. Père, vous avez dit que je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu par le monde physique. À cause de la complexité de notre connaissance de l'être qui est toujours liée au devenir pour nous. La connaissance dans le monde physique, la connaissance de la philosophie de la nature, ramène ma connaissance de l'être au devenir. En philosophie de la nature, le devenir est premier. Donc, je vois que dès que je regarde l'être, je dépasse cette philosophie de la nature et je vois que la philosophie de la nature n'est jamais première, puisqu'elle s'arrête à la nature. Qui est principe du mouvement. Donc la philosophie de la nature reste enfermée dans la nature et dans le devenir. Et je vois que ma philosophie de la nature peut uniquement affirmer que le devenir n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. Et c'est pour ça que la philosophie de la nature peut prouver que le mouvement, l'être mobile, ne peut pas être tout l'être. Et qu'il faut, au-delà de l'être mobile, l'être immobile. Et c'est justement par là que je vois que le monde physique ne me conduit pas directement à Dieu. Il me montre que ce monde physique ne peut pas être total. Unique vis-à-vis de l'être. Le monde physique nécessairement est second. Il y a au-delà du monde physique un monde de l'être immobile. parce que l'être physique, l'être mobile, n'est jamais premier du point de vue de l'être. Il est toujours second. Et c'est pour ça que la philosophie de la nature me conduit à montrer un au-delà de l'être mobile, qui est l'être immobile. Mais l'être immobile est un être au-delà de la matière. Est un être au-delà de la matière, mais il peut être multiple. Il n'est pas nécessairement un. Parce que le mouvement, par définition, est multiple. L'être doit aboutir à un être un, mais pas le mouvement. Est-ce que vous voulez dire que seul l'aspect personnel de l'être, c'est-à-dire le mode d'être particulier et ultime qui est la personne, peut nous amener à Dieu? Oui. L'être mobile ne nous conduit qu'à montrer la primauté par rapport à l'être mobile d'un être immobile. Mais ne me conduit pas directement à Dieu. Il y a des êtres immobiles qui ne sont pas nécessairement Dieu. Et si évidemment je prends l'être au sens très fort, je dirais il n'y a qu'un être immobile, l'être premier. Est-ce que vous voulez dire que seul l'aspect personnel de l'être, je veux dire que seul l'aspect personnel de l'être est un être spirituel, est un être spirituel. La personne exige l'intelligence. L'intelligence, c'est le cas d'un être spirituel. Point de vue, exigence rigoureuse de l'être immobile. Et ça, c'est très important de comprendre que l'être mobile ne me conduit pas directement à Dieu. Dieu, c'est pas seulement un être immobile. Dieu, c'est être dans l'ordre de l'être, l'être premier. Oui. C'est en ce sens-là que saint Thomas nous dit que seule la finalité peut me conduire à Dieu. Seule la finalité dans l'être. Et c'est pour ça que la recherche même de la cause formelle de l'être, en disant que la cause formelle de l'être, c'est la substance, ça ne me fait pas découvrir Dieu tout de suite. L'être en acte, c'est l'être fin. Alors, l'être en acte me permet de découvrir Dieu tout de suite. Et je crois que ça, c'est très important à bien saisir. Que l'être mobile est toujours second, exige un être immobile. L'être immobile peut être multiple. Il peut y avoir beaucoup d'êtres au-delà de la matière. Seul l'être qui est à lui-même sa propre fin est unique. Et l'être qui est à soi-même sa propre fin, c'est un être qui ne connaît pas le mouvement. Donc, il existe. Et c'est Dieu. Donc ça, c'est des conditions très importantes à toujours se rappeler. Donc, au point de vue critique, je peux tout de suite dire que je ne puis atteindre Dieu d'une façon démonstrative que par le problème de la personne qui est la modalité la plus parfaite de l'être. Je ne connais pas d'autre modalité de l'être plus parfait que la personne, c'est-à-dire un être intelligent, un être volontaire. C'est, je crois, ça que nous devons découvrir progressivement et que la scolastique n'a pas mis suffisamment en lumière. On n'a pas développé le point de vue de la personne au niveau de l'être pour montrer que l'être, l'être spirituel est un être plus parfait que tous les autres modalités de l'être. Et l'être parfait, l'être personnel, est donc ce qui me permet d'avoir l'expérience de ce qui est la plus parfaite. Évidemment, l'expérience de ceci est présente dans l'expérience de la personne. Et la personne a ceci de tout à fait particulier et d'unique. C'est que je saisis l'être dans sa modalité spirituelle, c'est-à-dire dans sa modalité supérieure à la matière intellectuelle et dans sa modalité volontaire. Toute personne implique l'intelligence et la volonté. Et l'intelligence et la volonté sont les modalités les plus parfaites de l'être que je peux expérimenter. Je n'expérimente pas de modalité de l'être plus parfait que la modalité de la personne. Or, comme l'existence de Dieu, de l'être premier, est bien ce qui, pour mon intelligence, est le plus difficile à découvrir, puisque mon intelligence ne découvre pas Dieu directement. Dieu est un Dieu caché pour le philosophe. C'est dans la personne humaine intelligence et volonté, que l'être se manifestera de la manière la plus lumineuse, la manifestation la plus plénière. Je n'ai pas d'autre expérience plus parfaite de l'être que celle que j'ai dans l'expérience de mon être qui pense, dans l'expérience de mon être qui m'est. Et si je dois employer l'expérience la plus parfaite de l'être pour me mettre le plus proche possible de l'être premier, alors je comprends pourquoi si c'est vraiment l'être spirituel, intellectuel. Je prends cette expérience type de la personne je suis comme l'expérience qui m'aidera le plus à prouver l'existence de Dieu. Alors, vous pourriez dire, pour vous, donc pour moi, pour l'homme, l'expérience de l'être le plus parfait, c'est l'être personnel. C'est la personne en tant que capable de connaître, donc en tant que connaissant et en tant qu'aimant. Et vous arriverez à dire que c'est en tant qu'aimant et aimant une réalité qui est supérieure à elle que l'être est là le plus parfait. Puisque saint Thomas nous rappelle toujours que lorsqu'il s'agit des réalités supérieures à l'homme, l'amour permet de les connaître mieux que l'intelligence. En les aimant, je suis plus proche des réalités qui me dépassent en les connaissant. En aimant Dieu, je suis plus proche de Dieu qu'en le connaissant. C'est très beau de dire ça. Mais le mieux, c'est de le connaître le mieux possible et de l'aimer, de mettre les deux ensemble. Et c'est ça la connaissance sapientiale. C'est une connaissance affective. Ce n'est plus une connaissance rationnelle. C'est une connaissance affective. C'est l'intelligence au service de l'amour et c'est l'amour au service de l'intelligence. C'est tous les deux se mettent au service l'un de l'autre pour aller le plus loin possible. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais disons que c'est le seul être, c'est l'être le plus parfait que vous pouvez connaître, mais ce n'est peut-être pas nécessairement l'être premier. L'être premier, se connaît lui-même. Mais ce n'est pas nécessairement par mon intelligence qui est créé, qui est limité, que je puis être le plus proche possible de l'être premier. Ça, à la rigueur, je pourrais le dire, et le plus possible de l'être premier. N'y a-t-il pas une modalité supérieure à celle de l'être spirituel, intellectuel? Je parle au point de vue philosophique, hein, pas au point de vue surnaturel. Au point de vue surnaturel, tu restes à connaissance des anges, plus parfaite que ma connaissance de l'intelligence. Ne change pas, puisque l'être de l'intelligence est capable de connaître l'être des anges, une connaissance analogique. Et c'est proprement ça qui me permet de dire que par la connaissance de mon intelligence, j'atteins vraiment, quand je connais l'être, ce qu'il y a de plus élevé. Donc, ce qui est comme le signe de la création de Dieu. Et au point de vue artistique, on sait qu'il y a des auteurs qui ont signé en mettant un petit oiseau dans le coin de leur tableau, qui ont signé en mettant leurs initiales. Je me suis toujours demandé quelle était la signature de Dieu sur ce qu'il a fait en tant qu'artiste suprême. Parce que si j'ai sa signature, je dis, ah, je le connais. Quelle peut être la signature de Dieu comme créateur? C'est une question qu'il faut se poser. Si quelque chose dépend directement de Dieu, il y a sa signature. Or, Dieu crée mon âme. Quelle est la signature de Dieu dans mon âme? Vous êtes dû à me poser la question, peut-être. Il faut se la poser, parce que ça permet de remonter directement à Dieu, s'il y a une signature de Dieu. Si le Dieu caché nécessairement signe son œuvre, non pas d'une signature conventionnelle, mais d'une signature naturelle. Ah, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est le devenir? Non. Le devenir, l'homme est capable de le faire. Et il fait des devenirs admirables, extrêmement rapides, le devenir de l'avion. naturellement, il n'y a pas d'aigles qui vont aussi vite qu'un Boeing. Donc je bats Dieu à la course. Mais Dieu ne signe pas au niveau de venir. Où est la signature de Dieu ? C'est l'être. Ah, il faut voir que l'être me met en face de quelque chose qui n'est pas de moi. L'être de mon âme, c'est quelque chose qui n'est pas d'une créature, ce n'est pas de mes parents. Mon corps ressemble à mes parents, mais pas mon âme, qui ressemble à Dieu. Ah, je dis ça au point de vue de la foi, mais au point de vue philosophique. En restant au point de vue purement philosophique, est-ce que je peux dire que c'est ce qui est, en tant qu'il est, qui est la signature de Dieu ? Et c'est par le fait même l'être, et seulement l'être, qui me permet de découvrir Dieu. L'être saisi dans mes expériences et dans mon expérience de la personne. La personne est. Elle existe, elle est. Donc, ce n'est pas la modalité de la personne qui me permet de saisir l'être premier, mais c'est son être. Alors, je me pose la question, quand je pose ce jugement, ceci est, je touche quelque chose que seul Dieu peut toucher directement. Donc, ce n'est que par l'être que je peux rejoindre Dieu. Alors, toute l'importance est de voir que quand je dis ceci est, je touche quelque chose qui ne peut pas relever d'une créature. Ça relève nécessairement d'un être. De l'être, je ne dis pas d'un être, de l'être premier, Dieu, que j'appelle Dieu. Alors, est-ce que l'être n'est pas Dieu ? Être créé n'est pas Dieu. Mon être n'est pas Dieu. Mais mon être est la seule chose que Dieu peut faire. La seule chose que Dieu peut réaliser. Personne ne peut réaliser l'être. Pourquoi ? Et tout dépend de ça. Hein. Et on voit très bien alors, à ce moment-là, les confusions qui se font, puisque l'être vient directement de Dieu. Alors, il est divin. Et saisir l'être en tant qu'être, c'est saisir quelque chose de divin. Alors, est-ce que l'être est divin ? Je me souviens, au Canada, c'était la grosse question. Puisque vous dites ça, au fond, l'être est divin. Donc, il est surnaturel. Puisque le divin est surnaturel. Le divin pur. Non. L'être créé n'est pas Dieu. Il est créé par Dieu. Et directement par Dieu. Et ce n'est pas Dieu. Alors pourquoi puis-je dire que l'être est créé par Dieu, qu'il n'est pas Dieu, je le comprends, parce que je serai Dieu. Vous voyez, on comprend très bien comment en philosophie, facilement, l'être est dit divin. Il peut d'une certaine manière être divin en tant qu'il ne peut être créé que par Dieu. Et uniquement de cette manière-là, il est divin comme effet de Dieu. Dieu seul peut communiquer l'être. Dieu seul. Alors, il y a dans l'être, en tant qu'être, quelque chose qui est un reflet direct du Dieu créateur. Mais il n'est pas Dieu. Il est créé. C'est ça qui est très beau, c'est que Dieu, l'être premier, peut créer. Et je le constate. Et que ce qu'il fait a sa marque.